nourrir la première génération des disciples de Christ. Ceci produit comme marque en une résurrection à la fin des temps. Or voici, il faudrait inviter à reconnaître que non seulement cette résurrection est anticipée avec Jésus de Nazareth, sans qu'on soit pourtant arrivé à cette fin des temps, mais qu'elle est aujourd'hui communiquée à ses disciples, non, comme la simple promesse d'une existence dans l'au-delà, mais comme une puissance de vie pour l'histoire. Le retour à la vie de Lazare est le signe de cette force de résurrection et de salut apportée par le Christ. C'est Jésus lui-même, nous l'avons vu, qui le dit à Marthe. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui croit en moi ne mourra jamais. Avouons, frères et sœurs, que nous sommes là, au cœur même de la confession de foi chrétienne. Proclamer que le Christ est vivant, ressuscité. Il a les paroles de la vie éternelle. Il nous communique la vie, la vraie vie, celle qui jaillit de l'amour trinitaire de Dieu. Comme à Marthe, Jésus nous demande ce matin à chacun, crois-tu cela? Toute la prédication ecclésiale et l'entrée dans l'expérience chrétienne ont comme visée de faire grandir en nous notre réponse de foi pour que nous puissions proclamer comme Marthe, oui Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Je crois que nous n'aurons jamais fini d'accueillir ce salut apporté par le Christ, d'en découvrir tous les symboliques et de témoigner de la force de transformation qui met à l'œuvre dans nos vies. Car cette source de vivre qui nous désaltère ne nous est pas donnée pour notre usage exclusif. Elle nous est offerte pour que nous l'offrions à d'autres. À chacun, nous avons à dire « Viens et bois ». Si tu as soif, viens et bois. La source est pour tous. Ce qui ne peut pas dans l'expérience du concile d'Alphine II, ce qui a habité ces acteurs, on l'a senti d'ailleurs dans cette rencontre à travers tous les témoignages que nous avons entendus. Ce qui a fait dans la plupart de ces textes, c'est cette passion d'accueillir le salut de Dieu et de le proposer à fait nouveau aux hommes et aux femmes. On a parlé de l'esprit du concile. Je préférais parler de souffle conciliaire, d'une passion évangélisatrice, d'une passion missionnaire. Et cette passion n'a pas pris une ride. Certes, le monde a changé. Notre environnement n'est plus celui des années conciliaires. Mais c'est bien la même charité pastorale qui est à l'œuvre dans le travail possible et qui nous fait entreprendre aujourd'hui une nouvelle évangélisation. Je vous invite à le lire, si vous n'avez pas déjà fait, le discours prononcé par le pape Paul VI à la fin du concile, le 7 décembre 1967. Dans une anticipation quasiment prophétique, le pape évoque les critiques qui pas été influencé par un relativisme ambiant, marqué par la tentation d'adopter des modes de pensée venant du monde extérieur et étranger à sa propre tradition. Dans leur volonté de dialogue avec leurs contemporains, les pères conciliaires n'auraient-ils pas affadi le Saint-Évangile? Le pape Paul VI rejette catégoriquement cette idée. Il montre que c'est bien cette volonté de déployer la lumière de la révélation de Dieu en Jésus-Christ qui a été au cœur de la préoccupation chrétienne. D'ailleurs, ne disons-nous pas, et nous l'avons entendu plusieurs fois dans cette rencontre, au début de la constitution dogmatique sur l'Église, le Christ est la lumière des peuples, réunis dans l'Esprit Saint, le Saint-Concile souhaite donc ardemment, en annonçant à toutes les créatures la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. Les pères conciliaires ont été habités par ce désir de rejoindre leurs contemporains pour leur offrir la source d'eau vive de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Ils ont voulu être les disciples de celui qui est venu, non pour juger le monde, mais pour le sauver. Ils ont souhaité entrer dans l'attitude même du Christ, le bon Samaritain, qui frémit au plus profond de ses entrailles à la vue de l'homme blessé, qui s'approche de lui et va le prendre en charge. Nous voulons souligner, dit le pape Paul VI, que la règle de notre concile a été avant tout la charité. Et qui pourrait accuser le concile de manquer d'esprit religieux de fidélité à l'Évangile pour avoir choisi cette orientation de base, si l'on se rappelle que c'est le Christ lui-même qui nous a appris à regarder l'amour pour nos frères comme le signe distinctif de ses disciples. C'est donc cette fidélité à un Dieu qui aime et veut entrer en conversation avec les hommes. C'est donc cet amour qui appelle la rencontre de l'autre, le dialogue, l'annonce et la proposition de la foi. Paul VI affirme, le concile tout entier se résume finalement dans cette conclusion religieuse. Il n'est pas autre chose qu'un appel amical et pressant qui conduit l'humanité à retrouver par la voie de l'amour fraternel, ce Dieu dont on a pu dire, et là Paul VI cite ces belles paroles de saint Augustin, s'éloigner de lui, c'est périr. Se tourner vers lui, c'est ressusciter. Demeurer en lui, c'est être vivant. Retourner à lui, c'est renaître. Habiter en lui, Paul VI ajoute, voilà ce que nous espérons au début de ce second concile œcuménique du Vatican et au début de l'entreprise de renouvellement humain et religieux qu'il s'était proposé d'étudier et de promouvoir. Voilà ce que nous espérons pour nous-mêmes, vénérables frères et pères de ce même concile. Voilà ce que nous espérons pour l'humanité tout entière qu'ici nous avons appris à aimer davantage et à mieux servir. Ce que ce concile vient nous dire, c'est qu'il ne saurait y avoir d'annonce du salut et de service de la vérité sans charité pastorale, sans amour concret de ceux et de celles à qui on s'adresse. Dans un livre particulièrement suggestif, intitulé « La beauté des mots, la liste des passés », le philosophe Fabrice Achache écrit « Source de la vérité, la communion doit apparaître dans les mots écrits, mais elle doit aussi se déployer dans la manière de le communiquer et comme but de cette communication. L'annonce de la vérité s'accomplit dans un amour divin du prochain, spécialement du pécheur, non pour avoir raison, mais pour être avec lui, communiant. Il s'agit moins de donner une leçon que d'accueillir un frère. Ôtez cet élan de communion, si orthodoxe que soit votre parole, elle procède d'un souffle impur, elle possède un fond erroné. Puisque justement, pour Fabrice Achache, la foi des démons, c'est la vision de la vérité sans la loi. Frères et sœurs, cet anniversaire du Concile Vatican II nous invite ainsi, aujourd'hui plus que jamais, à participer à la charité du bon pasteur, à l'amour de celui qui se nécessite de sa vie pour ceux qui l'aiment. Et nous savons que c'est du sacrifice eucharistique, comme nous le rappelle le Concile, que découle cette charité. Puisse cette Eucharistie que nous célébrons ensemble ce matin faire de nous ces témoins joyeux et ces frères attentifs dont notre monde a tant besoin. Amen.